Indépendance, tcha-tcha, tozoumiye. Otipoisa, tcha-tcha, toubakini.
La Grenouille vous propose des lectures d'extraits de deux livres du célèbre journaliste polonais Kapuscinski. Eben, écrit en 1998, et Il n'y aura pas de paradis, écrit en 1978, initialement publié sous le titre La guerre du foot. Mort en 2007, Kapuscinski a parcouru l'Afrique en tant que reporter pendant la période des indépendances. Théoriquement, mais théoriquement seulement, le colonialisme règne en Afrique depuis la conférence de Berlin, qui s'est tenue entre 1883 et 1885. Conférence au cours de laquelle quelques États européens, essentiellement l'Angleterre et la France, mais aussi la Belgique, l'Allemagne et le Portugal, se sont partagés le continent tout entier, jusqu'à la libération de l'Afrique dans la seconde moitié du XXe siècle. En fait, la pénétration coloniale a commencé bien plus tôt, dès le XVe siècle, et elle n'a cessé de progresser au cours des cinq siècles suivants. La phase la plus honteuse et la plus brutale de cette conquête fut le commerce des esclaves africains, qui dura plus de 300 ans. 300 ans de traque, de rafles, de poursuites et d'embuscades organisées par des Blancs, souvent avec la complicité d'Africains et d'Arabes. Entassés dans des cales de navires, des millions de jeunes Africains ont été déportés dans des conditions cauchemardesques, au-delà de l'océan Atlantique, afin d'y édifier, à la sueur de leur front, la richesse et le pouvoir du Nouveau Monde. Persécutée et impuissante, l'Afrique a été dépeuplée, détruite, ruinée. Des territoires entiers du continent ont été dévastés, la brousse stérile a envahi des terres florissantes et ensoleillées. Mais c'est dans la mémoire et la conscience des Africains que cette époque a laissé les stigmates les plus douloureux et les plus durables. Ces siècles de mépris, d'humiliation et de souffrance ont fait naître en eux un complexe d'infériorité, et ont ancré quelque part, au fond de leur cœur, un profond sentiment d'injustice. Au moment où éclate la Seconde Guerre mondiale, le colonialisme est à son apogée. Pourtant, le déroulement de cette guerre, son impact symbolique sur la réalité, amorce la déroute et la fin du système colonial. Comment et pourquoi cela s'est-il passé ainsi? Une brève incursion dans les méandres obscurs d'une pensée résonnant en catégorie raciale explique bien des choses. En effet, le thème central, l'essence, la racine des relations entre les Européens et les Africains, la forme principale que ces rapports prennent à l'époque coloniale, c'est la différence de race, de couleur de peau. Toute relation, tout échange, tout conflit peut être traduit en termes blanc-noir, le blanc étant bien sûr supérieur au noir, meilleur, plus fort que lui. Le blanc est un monsieur, un maître, un saïb, un bwana kubwa, un seigneur incontesté et un souverain, envoyé par Dieu pour diriger les noirs. On a persuadé le noir que le blanc est intouchable, invincible, que les Blancs forment une puissance homogène et solidaire. Telle est l'idéologie fondamentale du système de domination coloniale qui a permis, entre autres, de justifier l'idée que toute remise en question, toute contestation sont dénuées de sens. Or voilà que soudain, les Africains, qui ont été enrôlés dans les armées britanniques et françaises, voient que dans cette guerre à laquelle ils participent en Europe, le Blanc frappe le Blanc. Que les Blancs se tirent dessus et se détruisent leurs villes mutuellement. C'est la révélation, la stupéfaction, le choc. Les soldats africains, dans l'armée française, voient que leur puissance coloniale, la France, est vaincue et battue. Les soldats africains, dans l'armée britannique, voient que la capitale de l'Empire, Londres, est bombardée. Ils voient que les Blancs sont pris de panique, que les Blancs fuient, supplient, pleurent. Ils voient des Blancs déguenillés, affamés, mendiant du pain. Et au fur et à mesure qu'ils progressent vers l'est de l'Europe et qu'ils combattent, aux côtés de Blancs anglais, des Blancs allemands, ils tombent ça et là sur des colonnes de Blancs vêtus d'uniformes rayés, des hommes squelettes, des hommes lambeaux. Le choc que subit l'Africain lorsque les images de la guerre des Blancs lui défilent sous les yeux est d'autant plus fort que les habitants de l'Afrique, à de rares exceptions près, et dans le cas du Congo belge sans exception aucune, les habitants de l'Afrique donc n'étaient pas autorisés à aller en Europe ni même à sortir du continent. L'Africain ne pouvait juger de la vie des Blancs que d'après les conditions luxueuses dont ces derniers jouissaient dans les colonies. Dernier point, au milieu du XXe siècle, l'habitant de l'Afrique n'est informé que par ce que lui raconte son voisin, le chef de son village ou l'administrateur colonial. Par conséquent, il ne connaît du monde que ce qu'il voit dans son environnement proche ou entend lors des conversations le soir au coin du feu. Nous allons bientôt retrouver tous ces combattants africains de la Seconde Guerre mondiale, de retour au pays, dans les rangs de divers mouvements et partis luttant pour l'indépendance. Ces organisations poussent comme des champignons après la pluie. Elles ont diverses orientations, poursuivent des objectifs différents. Ceux qui viennent des colonies françaises avancent dans un premier temps des revendications modérées. Ils ne parlent pas encore de liberté. Ils veulent seulement que tous les habitants des colonies deviennent citoyens français. Paris rejette ce postulat. Certes, celui qui aura été formé dans le système culturel français, qui se sera élevé à son niveau évolué, pourra obtenir la citoyenneté française, mais cela restera exceptionnel. Ceux qui viennent des colonies britanniques sont plus radicaux. Les audacieuses visions d'avenir dépeintes par les descendants d'esclaves, les intellectuels afro-américains de la seconde moitié du XIXe siècle et de la première moitié du XXe nourrissent leurs inspirations, leur engagement et leurs programmes. Il formule une doctrine qu'il baptise « panafricanisme », dont les principaux auteurs sont le militant Alexandre Crumwell, l'écrivain Dubois et le journaliste Marcus Garvey, originaire de la Jamaïque. Ils ont des vues différentes, mais s'accordent sur deux points. Premier point, tous les Noirs du monde, en Amérique et en Afrique, forment une seule race, une seule culture, et doivent être fiers de la couleur de leur peau. Deuxième point, toute l'Afrique doit être indépendante et unie. Leur slogan est « L'Afrique aux Africains ». Dans un troisième point du programme, tout aussi important, Dubois estime que les Noirs doivent rester dans les pays où ils habitent. En revanche, Garvey considère que tous les Noirs, où qu'ils résident, doivent rentrer en Afrique. Il vend même une photographie de Haïlé Sélassié en prétendant qu'il s'agit d'un visa de retour. Il meurt en 1940 sans avoir jamais vu l'Afrique. Le jeune militant et théoricien ghanéen Kwame Nkrumah devient un adepte fervent du panafricanisme. En 1947, après des études en Amérique, il revient au pays. Il fonde un parti dans lequel il attire les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale ainsi que la jeunesse. Lors d'un meeting à Accra, il lance un slogan combatif. L'indépendance tout de suite. Dans l'Afrique coloniale de l'époque, c'est une véritable bombe. 10 ans plus tard, le Ghana est le premier pays au sud du Sahara à acquérir l'indépendance. Et Accra devient aussitôt le centre provisoire et informel de tous les mouvements, idées et activités du continent. Il y règne une fièvre émancipatrice. On peut y rencontrer des hommes de toute l'Afrique. Attirés par un sentiment de curiosité, d'incertitude et même de crainte, des foules de journalistes du monde entier s'y retrouvent. C'est la hantise des capitales européennes de voir l'Afrique exploser, le sang des Blancs versé, les armées équipées par les Soviétiques se soulever et se lancer à l'assaut de l'Europe dans un mouvement de vengeance et de haine. C'est un extrait de Ébène, un recueil de reportages écrit par le journaliste polonais Kapuscinski.